Bonjour et bienvenue sur le podcast Le lundi de bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Faber-Benstein, dirigeante avec Sylvie Serre de 600 Phoenix. Alors, votre mission à toutes les deux, c'est de lutter contre le burn-out en offrant des solutions de prévention et de reconstruction post-burn-out. Quel challenge, franchement, Sandrine, quelle mission. Dans tous les cas, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Sandrine, tu vas bien?
Bonjour Aurélie, ben je vais très bien parce que je suis avec toi ce matin.
Ah, sympa, merci beaucoup, plaisir partagé. Alors, avant de se lancer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Sandrine, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime? Et toi, quand tu te lèves le lundi matin, de bonne heure ou pas d'ailleurs, eh bien, qu'est-ce qui te fait vibrer?
Alors moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, presque 30 ans, qui s'est épanoui, mais vraiment éclaté dans son boulot et puis qui a fini par faire un énorme burn-out avec dépression. J'en passe et des meilleurs et donc qui a voulu œuvrer justement à la prévention. Ce qui m'anime, c'est de planter des graines. De planter des graines chez les gens et puis d'en recevoir. Ces petites graines, elles vont produire un effet. Alors, chez certaines personnes, c'est tout de suite clac, ça part et ils mettent en œuvre, etc. Et puis chez d'autres, ça met plus de temps. Chez moi, ça met pas mal de temps d'ailleurs. Mais peu importe, à un moment donné, si ça produit un bel arbre ou si ça produit une belle fleur, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est super, c'est que ça aura œuvré. Et alors le matin, je me lève juste pour donner et recevoir un sourire. Et ça va illuminer ma journée.
Waouh, super! En fait, tu n'es pas experte du burn-out, tu es une agricultrice, agricultrice en burn-out.
Ah oui, exactement. Alors, j'espère ne pas en générer, mais effectivement, en contraire du burn-out, c'est-à-dire de l'accomplissement et de l'épanouissement.
Merci beaucoup, jolie présentation, Sandrine. Bon, tu le sais, ce podcast, il a pour ambition de parler de qualité de vie au travail. Mais en fait, c'est du travail dont j'aime à discuter. Pour toi, qu'est-ce que c'est ce fameux mot qualité de vie au travail? Comment tu le définirais avec selon ta vision et selon justement ton métier, hein, qui est de lutter contre le burn-out et de le prévenir surtout, et puis d'accompagner les personnes en reconstruction après cet événement. Du coup, voilà, comment tu définis la qualité de vie au travail? Et puis, quels sont pour toi les ingrédients d'une bonne qualité de vie au travail?
En fait, il y a un premier axe qui est fondamental, et qui repose sur trois jambes. C'est comme le travail tripalium, trois pieds là, le sens, les besoins et les motivations. Il faut faire attention à pas se méprendre. Quand les entreprises souvent disent il faut donner du sens, elles estiment qu'il y a un sens universel. C'est mon projet, c'est le meilleur, mon entreprise, c'est le meilleur, etc. En fait, le sens, il est propre à chacun. Il n'est pas universel. Il y a des gens qui vont venir parce que ouais, le projet il est génial. Le projet c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Déjà, bon courage. Donc ça c'est un super projet, mais tout le monde ne va pas être mobilisé par ça parce que justement utopique. D'autres entreprises vont dire oui, on va devenir les leaders de. Bah oui, mais ça ne mobilise pas tout le monde. Il y en a qui. J'avais une cliente justement qui a découvert que ça faisait 25 ans qu'en fait elle ne s'était éclatée au bureau que quand elle était avec des gens avec qui elle était bien. Et donc le sens au travail pour elle, c'est être avec des gens avec qui elle est bien. Donc ça, c'est le premier point sur cet axe. Le deuxième point, c'est les besoins. C'est pareil, on a des besoins qui sont très différents. Il y a des gens qui ont besoin de structurer le temps, d'autres qui ont besoin d'avoir des opinions fortes et d'être respectés là-dedans. Il y en a qui ont besoin de solitude, etc. Donc la qualité de vie au travail, elle est là-dedans, c'est-à-dire quels sont les besoins des gens, comment on y répond, comment on leur permet d'y répondre. Et puis le troisième point, c'est les motivations. Qu'est-ce que j'aime? Comment j'aime travailler? Est-ce que j'aime travailler en groupe, est-ce que j'aime travailler, avoir des grandes plages où je peux réfléchir, est-ce que j'aime plutôt être dans l'action, etc. Ben ça, c'est vraiment l'axe primaire, c'est qu'est-ce que je vais trouver au travail. Le deuxième axe, c'est les besoins, cette fois-ci, physiologiques pour cette qualité de vie. C'est tout bête, mais c'est les pauses, autoriser les pauses, faire en sorte que les gens les fassent, les pauses. C'est le besoin physiologique, les mettre à disposition, à boire de la bonne nourriture. Les bonbons, c'est vachement bien, sauf que c'est pas bon pour la santé. Voilà, donc voilà, faut vraiment faire attention. Et puis, un point fondamental, c'est la sécurité. C'est la sécurité physique, la sécurité mentale, la sécurité psychologique, la sécurité psychique. Ça, si on n'a pas ça, on n'a pas une bonne qualité de vie au travail. Et en fait, tout le reste, les baby-foot, les cours de yoga et tout ça vient. Voilà, pour moi, c'est vraiment la base. Sinon, ça ne sert à rien, c'est du sparadrap sur une jambe de bois.
Bien sûr. Ou dans une entreprise, tu as différents collaborateurs qui ont ces trois éléments-là qui sont complètement différents et parfois même à l'opposé. Même à la place d'un dirigeant, comment il fait pour naviguer avec les personnes et ces trois axes, le sens, les besoins et les motivations?
Bah déjà, il faut qu'il traverse ses peurs, les peurs que les autres soient différents de lui et justement n'aille pas dans son sens à lui et qu'il expérimente peut-être, hein, parce qu'on peut toujours le dire, mais c'est mieux d'expérimenter, qu'il expérimente la richesse de cette diversité. Il n'a pas toujours besoin de gens qui sont comme lui, il a besoin aussi de quelqu'un qui va être très structuré, dans la rigueur. Il va avoir besoin de quelqu'un qui va le confronter, sinon il a toute chance de ne pas voir les risques. Voilà, donc pour un dirigeant, il y a un enjeu de comprendre en quoi ça va être bénéfique pour lui, cette diversité.
Tout à fait. Et tu vois, est-ce que des fois, justement, parce que dans le monde du travail, des fois, je me dis, mais que d'injonctions paradoxales, quoi. Est-ce que c'est justement le sens d'une direction, le besoin d'un collaborateur, la motivation d'un service support à l'entreprise? Est-ce que c'est le fait que tout ça soit pas complètement accepté, intégré, qui génère du coup du mal-être au travail? Est-ce que c'est de là que peuvent partir les écarts et les choses un peu plus graves, comme par exemple le burn-out dont toi tu es expert? Que ça peut être une des explications en tout cas.
Oui, c'est une des explications. Après, il y en a une deuxième. Et là, la politique de prévention, elle doit vraiment reposer là-dessus, à mon sens, hein, évidemment. Effectivement, tu as raison. C'est le fait de ne pas prendre en compte toutes ces différences et qui vont faire richesse. Ce n'est pas un vain mot, hein, ce n'est pas un truc pour être optimiste. C'est que déjà, il y a une première raison, c'est que si on ne les prend pas en compte, à un moment donné, elles vont ressortir. Elles vont ressortir, elles vont se révéler en opposition. Se révéler en frein, se révéler en personnes qui ne vont pas agir, qui vont tout faire pour bloquer. Donc, si on n'en tient pas compte, notamment dans les moments où ça va bien, ça va ressortir dans les moments les plus critiques. Et puis, on a des angles morts, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir tiens, là, il y a un risque. Il y a même un risque chez les clients, par exemple, parce qu'on n'a pas écouté en interne voilà, c'est effectivement une des raisons majeures qui risque d'emmener à l'échec une entreprise, un projet, une équipe. Après, il y a une deuxième raison majeure, c'est que, alors surtout en France, on est très éloigné de ces émotions. Et quand je dis ces émotions, c'est la compréhension de ce qu'est une émotion, en quoi elle est fonctionnelle, et comment je gère derrière, pas l'émotion, mais je gère derrière. Idem pour le stress. Et puis, du coup, si tu veux, ça va emmener ces deux axes-là, le pas prendre en compte la différence, ne pas savoir comment fonctionne l'émotion, le stress chez moi, mais d'une manière générale, ça va entraîner des problèmes de communication. Et donc, du coup, tu as tous les ferments, soit de quelque chose qui est ultra positif, soit de quelque chose qui va être nocif pour les gens et puis pour l'entreprise.
Pour l'entreprise, bien sûr. Oui, c'est très intéressant. Pas évident hein, comme sujet à traiter, tant c'est celui qui est dans le monde du travail. Toi, je le disais en intro, du coup, tu es experte du burn-out. Alors, bon, c'est pas. Je ne sais pas si c'est le bon mot de dire experte, mais en tout cas, c'est ton métier.
Oui.
De façon très concrète, comment l'entreprise, elle pourrait contribuer à prévenir cela? Parce que, on venait de le dire juste avant, l'entreprise, c'est aussi des fois le terreau fait germer, ce que tu disais, des éléments positifs ou des éléments négatifs. Sur quel élément du travail elle peut justement agir?
Écoute, sur l'élément du travail, il y a déjà une première chose, c'est parler métier, valoriser le métier. Qu'est-ce que je fais, moi, dans mon quotidien? Parce que ça donne du sens, tu vois.
Bien sûr.
Si je vais tous les jours au boulot Et finalement, je fais des trucs, je sais pas trop à quoi ça sert. Et voilà, bah, la fin de la journée, j'ai pas de sens, j'ai pas d'orientation et je suis pas valorisée dans ce que je fais. Et on est souvent ce qu'on fait, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment important pour le travail et la relation au travail. Voilà. Alors après, je sais pas si tu veux qu'on parle des axes de prévention, mais ça, c'est déjà très important. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais au quotidien? Et puis, encore une fois, comment je travaille, avec qui je travaille et comment ça se passe. Ça, c'est vraiment très important.
Enfin, la prévention, est-ce qu'elle peut porter sur tout ce qui est organisation du travail, relations entre les personnes que l'on peut tisser au travail? Est-ce que c'est sur ces domaines-là, par exemple?
Alors, ça porte là-dessus, c'est-à-dire que l'organisation du travail, elle doit effectivement être étudiée, analysée pour prendre en compte, ces différences et faire le meilleur mixte possible. Prendre en compte les besoins, y compris physiologiques, voilà, prévoir la possibilité de pause, la possibilité d'échange, la possibilité de s'extraire et d'être seul, enfin, tu vois, tout ça, parce que ça va faire qu'au quotidien, on va pouvoir être en forme psychique et physique. Donc voilà, l'organisation du travail, bien sûr, la création des équipes aussi. Tu vois, tu crées une équipe, bah, faut bien réfléchir à comment je la compose. Bah, c'est pas tous les mêmes, c'est des complémentarités et puis des complémentarités qui vont être valorisées pour que chacun y trouve son compte et puis pour que l'équipe sache pourquoi je suis avec un tel qui ne me ressemble pas mais qui va m'apporter, donc pas dans la compète en fait sur l'organisation du travail.
Comprends, c'est très intéressant tout ça, Sandrine, mais du coup, ça doit être quand même hyper compliqué pour une entreprise de mettre en place les mesures de prévention, comment ils font, et puis je me dis, il y a toujours cette notion de coût.
Alors, il y a déjà, alors j'aime bien parler en axe, en point, mais bon, il y a un premier axe où là, l'entreprise y trouvera complètement son compte. C'est justement ce travail sur le stress, émotion, communication, parce qu'en fait, et ça c'est pour tout le monde, hein, tous les collaborateurs de l'entreprise, à commencer par le dirigeant, parce que si tu travailles là-dessus, en fait, tu travailles sur l'efficacité des gens. Si j'ai les moyens de ne plus me stresser, parce que souvent on se stresse. Voilà, il y a un facteur externe, mais il y a un facteur interne. Donc souvent je me stresse parce que j'ai peur de, parce que j'ai. Si tu donnes des clés aux gens pour moins se stresser, mieux comprendre leurs émotions et ce qu'il y a à faire, et mieux communiquer, mais en fait, à la limite, on pourrait même pas parler de prévention. C'est l'entreprise qui va gagner parce qu'on va mieux communiquer, on va mieux travailler, on va plus épanoui, etc. Alors, ça, il y a plein d'études qui le disent, donc ça m'agace un peu parce que ça paraît pas aussi évident que ça malgré la logique du truc, en fait, si tu veux, même neurologiquement, ça peut être expliqué. Donc voilà, ça, c'est vraiment le premier axe et donc. C'est pas que c'est pas compliqué, évidemment, ça demande de mettre des ateliers, des formations, des podcasts, tout ce que tu veux. Mais en fait, l'entreprise y gagne. Voilà. Le deuxième axe, c'est de cibler. Évidemment, elle ne peut pas tout traiter, mais elle va cibler l'entreprise, un, sur des personnes clés, les RH, les gestionnaires de carrière, si c'est une grosse entreprise, et le top management. Ne commencez pas forcément par les managers de proximité, commencez par le top management et le dirigeant. Ensuite, deuxième cible, bah, des gens qu'on a détectés comme étant en processus d'épuisement, parce que ça dure plus de 6 mois un processus d'épuisement avant d'arriver au burn-out. Et puis la troisième cible, c'est les moments. Ce n'est pas des gens, c'est les moments clés. Un moment où, par exemple, quelqu'un passe d'expert à manager. Il y a plein de choses qu'il doit abandonner. Émotionnellement, c'est hyper impactant. Cognitivement, il se passe des choses. Voilà. Donc, sur des moments clés, autrement dit, sur cet axe-là où, effectivement, là, je suis plus sur quelque chose qui est de l'ordre de la prévention proprement dite, ben là, si je cible, je dépense moins d'argent, mais je suis plus efficace parce que ça fait levier.
Bien sûr. C'est intéressant l'histoire des moments clés. C'est vrai que souvent on pense aux personnes, Et d'ailleurs, quand je dis personne, en fait, moi, je pars du principe que dans une entreprise, c'est la somme d'individus, mais dans les individus, j'y inclus le dirigeant. Hein. Donc, quand je dis les personnes, c'est vraiment toutes les personnes qui sont dans l'entreprise. Et c'est vrai que cette histoire de moment clé, je l'entends pas forcément souvent. Est-ce que tu as d'autres moments clés comme ça? Alors là, tu parlais du passage d'un manager sur une autre fonction. Est-ce qu'il y a d'autres moments clés qui se vivent en entreprise, que ce soit le dirigeant ou d'autres collaborateurs?
C'est par exemple quand tu montes une équipe projet sur un projet à enjeu, parce que les personnes dans le projet, donc ce n'est pas que le chef de projet, mais c'est les personnes dans le projet, et elles vont avoir à conduire du changement, elles ont elles-mêmes leurs propres freins, et en même temps, elles doivent porter des directives, parfois des injonctions, tu vois. C'est des moments en fait qui sollicitent la personne ou l'équipe, enfin, et l'équipe, à la fois sur ses compétences, à la fois sur ses qualités. Donc, c'est tout l'être qui est embarqué avec les émotions et avec le stress. C'est ça, c'est le moment clé, c'est oula, on est sollicité sur toutes ces dimensions-là.
Ouais, d'accord, c'est super
Tu vois,
intéressant.
juste, on a beaucoup accompagné et on a continué là, ce n'est pas sur des grosses entreprises, mais c'est qui sont salariés qui passent titulaires, c'est-à-dire qui créent une pharmacie, qui rachètent une pharmacie, qui s'associent. Bon, bah là, ils passent de salarié à chef d'entreprise, commerçant, etc. Là, c'est un moment où là, on va forcément changer, on va être extrêmement sollicité à tous les égards de notre être et notre rapport au travail et aux autres.
Ouais, super, très très bien. Le mot de la fin, c'est le tien. Est-ce que il y a quelque chose qui te tient particulièrement à cœur ou qui t'agace dans ce sujet de qualité de vie au travail et de tout ce que ça embarque, hein, dans la thématique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important à dire, à réfléchir? Voilà, est-ce que tu peux nous faire part de ça?
Eh ben, écoute, c'est aussi une invitation. Alors, il y a une phrase je crois que c'est de Socrate, connais-toi toi-même. Alors, à la fois, elle m'énerve, enfin, m'énerve. C'est-à-dire qu'on la dit souvent, mais ça devient presque une injonction. Connais-toi toi-même. Par contre, la suite de la phrase, c'est et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà, ben moi je préfère ça parce que du coup, ben, pourquoi me connaître moi-même? Si c'est pour être mieux avec les autres, mieux gérer, être plus efficace, ok, pourquoi pas. Mais alors, si ça m'ouvre des perspectives, là, oh, d'accord. Tu vois, là aussi, c'est une question de motivation. Voilà.
Super. En fait, c'est le début du proverbe de la maxime qui t'agace, mais la suite permet de te réconcilier avec. C'est marrant, dans une même phrase, on peut avoir deux émotions.
Exactement, exactement.
Super, merci beaucoup Sandrine pour cet échange. J'aime
Merci à
bien
toi.
qu'on se quitte en musique parce que je trouve que la musique, ça apporte aussi beaucoup dans une journée de travail, dans une semaine de travail. Toi, quelle est la musique qui te met la patate le lundi matin pour commencer justement ta semaine?
Bah, ça dépend des semaines, comment j'ai passé le week-end, la semaine qui va bien. Mais du coup, j'aurais quand même choisi, en fait, deux. La première, c'est l'ouverture du film de Spike Lee, Do the Right Thing. C'est, allez regarder la vidéo, c'est trop péchant, péchu, je sais pas quoi. C'est une petite nana qui danse sur un truc hyper rythmé qui s'appelle Fight the Power. Et alors évidemment, c'est un côté militant, mais moi je trouve que c'est aussi Fight the Power en soi, quoi. C'est-à-dire il y a plein de freins, voilà. Et l'autre, c'est Dancing Queen de ABBA.
Forcément, super. Eh bien, écoute, c'est très, très bien. Merci pour toutes ces informations. Merci pour ce partage. On se quitte en musique. Je te remercie. Prends soin de toi. Et à très bientôt, Sandrine.
Merci beaucoup, Aurélie.
À bientôt.